Chapitre 14. Halte dans la nuit. Après Opodjeski, par un chemin détourné, dit Malenkov au chauffeur en sortant de la ville. Mais levant les yeux vers les fils télégraphiques, oh là, ajouta-t-il, nous avons été signalés. Malcolm passa sa tête à l'intérieur pour prévenir le gangster qu'un nouveau danger venait de surgir. Mr. Beam était en train de s'asperger de parfum en ayant découvert un flacon dans l'élégant nécessaire de l'auto. « Stop !» dit-il sans s'émouvoir. « Nous sommes assez loin de Moscou en ce moment. » Le chauffeur arrêta, Chéri descendit, et sous les yeux admiratifs de ses compagnons, donna un échantillon de son adresse. Quatre fois, il fit claquer son revolver et les quatre fils télégraphiques tombèrent brisés. « Petit exercice que nous renouvellerons de loin en loin, » déclara-t-il en réintégrant la voiture, où cette fois il se roula en boule dans les profondeurs moelleuses des coussins. « Réveillez-moi dans une demi-heure, s'il vous plaît. » Et il s'endormit. Malenkov connaissait heureusement chaque pouce du terrain. Comme il était impossible de ne pas traverser le village, à moins de passer à travers champs, ils s'efforcèrent du moins d'éviter les villes. Au crépuscule, ils avaient atteint un bois épais qui dévalait jusqu'au grand lac au bord duquel était situé le saint village de Priopojenski. « Le chauffeur n'est pas aussi redoutable que je le craignais, » dit Malenkov. Il a conduit Kornilov lorsque ce dernier était général de division, et il veut bien partager les risques que nous allons courir. « Vous inspire-t-il confiance ?»« Dans une certaine mesure, et puis, à moins de le tuer, nous sommes obligés de nous fier à lui. » D'autre part, une chose importante était l'essence. Or, Peter, le chauffeur, avait assuré qu'il y en avait de grandes provisions pour l'armée à Priopojenski et qu'il se chargeait d'en dérober en quantité suffisante pour faire rouler l'auto pendant une semaine. Quand la nuit fut tombée, les fugitifs descendirent de voiture, quittèrent le couvert de bois et marchèrent en file indienne le long d'un chemin charretier au bout duquel clignotaient les quelques lumières de Priopojenski. La limousine avait été poussée dans un fourré et son emplacement marqué par un débris du miroir arraché à son cadre d'argent. « C'est le meilleur système, » avait dit Bim. « On gratte une allumette et la lumière se reflète dans le miroir. » Après avoir marché un certain temps, ils rejoignirent la grande route. « Nous sommes à deux pas du magasin d'approvisionnement militaire, mon petit général, » prévint le chauffeur. « Je vais me procurer de l'essence. »« J'ai confiance en vous, Arushka. »« Ou par la tête de ma mère, je ne vous trahirai pas, » répondit Peter, et il disparut dans l'obscurité. Restés seuls, les trois hommes tinrent conseil. « Autant que je me souvienne, » dit Malenkov, Petrov est un grand marchand de soie et sa maison est la première que nous rencontrerons dans cette direction. Oh, je me la rappelle, étant venu dans ce village avec sa majesté lors de son couronnement. Priopojenski est considéré par la maison impériale comme un lieu sacré. Pierre le Grand y a habité. Ils se remirent en marche et arrivèrent en effet devant une bâtisse importante. La maison de Petrov était une grande construction en bois, chargée d'inutiles coupoles et de multiples dômes, de sorte qu'on aurait pu la prendre pour une des innombrables églises du village. Au lieu de gravir le large perron de la façade, les trois amis pensèrent qu'il valait mieux signaler discrètement leur présence, se hasardèrent à lancer une poignée de gravier dans une des fenêtres du premier étage. La réponse fut immédiate. Quelqu'un poussa les volets et une voix demanda tout bas « Qui est là ?»« Nous venons de la part d'Irène, » dit Malcolm sur le même ton. La croisée se referma, puis des pas retentirent à l'intérieur, et les fugitifs entendirent une porte s'ouvrir à gauche de la maison. Ils contournèrent celle-ci et furent introduits, toujours dans l'obscurité, par le rôde invisible qui referma le battant et le barra d'une chaîne. « Si c'est la première fois que vous venez, dit-il, longez le mur, il tourne brusquement à droite. » Ils obéirent et, lorsqu'ils furent dans le couloir transversal, leur guide les dépassa et les fit entrer dans une grande salle, faiblement éclairée par la lueur d'un gros poêle. Arrivé là, l'hôte alluma une lampe à huile dont le rayon se projeta sur les rideaux des fenêtres hermétiquement closes et la lourde portière qui était retombée derrière eux. Ivan Petrov était un homme d'âge moyen, pauvrement vêtu, mais qui ne l'était maintenant en Russie. Il considéra d'abord ses visiteurs avec une certaine méfiance, sentiment que l'aspect de Bim justifiait en partie, car la respectabilité de son chapeau melon ne compensait pas l'effet menaçant de l'arsenal qu'il portait en guise de ceinture. Mais lorsque Petrov arrêta son regard sur Malenkov, son attitude changea complètement. Il lui tendit la main. « C'est vous, général! Vous souvenez-vous d'être venu chez moi à Kiev ?»« Oui, parfaitement, mais j'ignorais qu'Ivan Petrov fut l'Ivan de l'Ukraine. »« Maintenant, que désirez-vous, messieurs ?» Malenkov raconta leur évasion et parla de la recommandation d'Irène. « Je ferai tout ce que désire son Altesse, » dit gravement Petrov. « Je l'ai vue hier et elle m'a dit en effet avoir à Saint-Basile un ami auquel elle s'intéressait particulièrement. » Malcolm essaya, mais en vain, de paraître indifférent sous le regard que lui lança le général. « Je crois, » continua Petrov, que son Altesse comptait vous faire rencontrer ici un autre personnage. » Il fit une pause. « Malheureusement, ce vieillard est parti ce soir pour Moscou, contre mon gré, à son âge. »« C'est Kensky ?» interrompit Malcolm. « Oui, c'est Kensky, » répondit l'autre d'un ton bref. « Je lui ai dit pourtant qu'il ne résulterait rien de bon de sa démarche. Son Altesse se marie cette nuit. » Malcolm chancela. « Elle se marie ?» répéta-t-il. « Qui épouse-t-elle ? » Petrov baissa les yeux, comme s'il ne pouvait proférer en face de ses hôtes une telle monstruosité. « Mais Bulba, le laquais !» Chapitre 15. La mariée rouge. Ce même soir, Irène revint au palais Yaroslav, qui lui rappelait de si douloureux souvenirs, pour attendre le point culminant de son calvaire. Elle traversa la ville, sa voiture ostensiblement escortée par 4 cavaliers. Tous ses projets de fuite n'avaient pu aboutir à cause de la surveillance perpétuelle dont elle était l'objet, et son dernier espoir s'était évanoui lorsqu'elle avait découvert que l'immeuble dans lequel elle occupait un appartement, par ordre de Bulba, était en la possession de la garde soviétique. Elle gravit l'immense et lugubre escalier qui avait hanté ses cauchemars d'enfant, traversa le bureau que Bulba lui avait fait balayer la veille, et pénétra dans le petit salon où restaient encore quelques vestiges de l'ancienne splendeur. Une petite femme trapue, moustachue, avec un verru au menton, était assise sur le canapé, ses pieds touchant à peine le sol. La grande duchesse devina qu'elle était en présence de sa demoiselle d'honneur. C'était Maria Badisikaya, jadis cigarière dans une fabrique de la ville, aujourd'hui membre du comité de répression de la contre-révolution. Elle était habillée de satin vert largement décolleté, un bandeau de diamants dans ses cheveux noirs et raides, et se nettoyait les ongles avec un canif lorsqu'Irène entra. Elle s'interrompit alors pour crier d'une voix perçante « Vous êtes en retard, Riverain Yasoslav. J'ai autre chose à faire qu'à vous attendre. Nous avons une réunion du comité à 10 heures. Allez, dépêchez-vous. » Elle se précipita dans l'antichambre et revint, les bras chargés de vêtements, qu'elle étala sur les chaises et le dossier du canapé en disant « Voilà votre toilette, ma petite, tout y est. Bulba n'a rien oublié. Oh là là, quel homme !» La jeune fille regarda et frémit. C'était une idée de Bulba. Nul autre que lui n'aurait pu la voir. Chacune des parties de toilette était rouge, d'un rouge sang, d'un rouge qui semblait remplir la pièce de sa note criarde. Chez les Russes, le mot « rouge » est synonyme de « beau », et ce que les gens civilisés trouveraient voyant leur paraît simplement merveilleux. Les manières de Maria Bardiskaya changèrent tout à coup. D'arrogante, d'impatiente qu'elle était, elle devint obséquieuse et attentionnée. Peut-être, se disait-elle, qu'Irène allait devenir l'épouse de l'homme le plus puissant de Moscou. « Je vais vous aider à vous habiller, ma petite colombe, » dit-elle. « Non, je préfère m'habiller seule. Veuillez m'attendre dans la chambre à côté, Maria, » répliqua la jeune fille. « Mais je vous assure que je vous suis utile, ma petite chérie. »« Non, allez-vous-en, » commanda impérieusement Irène. « Bien, excellence, » balbutia la femme, et elle sortit. La grande duchesse s'habilla rapidement et se regarda dans la glace. Elle était superbe, effrayante. On frappa à la porte et Maria reparut. « Il vous envoie chercher, ma colombe. Prenez mon bras, ne tremblez pas, petite belle. Bulba est un brave homme et c'est le plus grand personnage de Moscou. » Irène la repoussa et marcha d'un pas vif vers le grand salon, car elle avait hâte de voir se terminer son supplice. La pièce était bondée de monde. Le magnifique salon que des tsars avaient honoré de leur présence pendant 10 générations de Yaroslav était envahi par le peuple. Quelques hommes portaient un uniforme militaire, d'autres un indescriptible costume, sorte de compromis soviétique tenant de l'uniforme de diplomate et de l'habit de soirée. Les femmes offraient le même aspect disparate dans leurs toilettes de fantaisie. L'atmosphère empestée de tabac était bourdonnante du bruit des conversations. Lorsque Irène entra, quelqu'un prononça son nom et la salle éclata en applaudissements. À l'autre bout de la pièce, on voyait une table couverte d'un tapis rouge, derrière laquelle était assis l'un des nouveaux magistrats de la ville. Poussée par Maria, la grande duchesse se fraya un passage à travers les groupes pressés. Irène s'arrêta devant la table, ses mains jointes légèrement crispées, mais la tête haute et le regard ferme et dédaigneux. Bulba fit son apparition et, cette fois, ce fut un tonnerre d'applaudissements qu'il accueillit. Jamais encore on ne l'avait vu dans un pareil costume. Quelques-uns pensèrent que c'était le nouvel uniforme des commissaires imposés par le Soviet, d'autres qu'il avait été créé pour la circonstance. Irène seule comprit, et un sourire méprisant éclaira une seconde son visage de marbre. Elle avait reconnu l'habit vert et or, les culottes courtes et le bas de soie blanc que les domestiques de Yaroslav portaient dans les grandes occasions. Raffinement de vengeance. Bulba se mariait en livrée de gala. La cérémonie fut courte et sans aucune valeur pour Irène. Le mariage religieux était remplacé par une sorte de parodie très brève. Bulba fut conduit auprès de la jeune fille. À tâtons, il lui tendit la main, et par pitié pour sa cécité, elle la prit. Puis quelques questions furent posées au marié qui répondit, et à la mariée qui ne répondit pas. La grande duchesse savait à l'avance que tout dans la célébration de ce mariage ne serait que bouffonnerie, mais elle avait accepté d'y venir afin de gagner du temps. À partir du moment où le magistrat prononça la formule qui faisait d'elle, aux yeux du soviet, la femme de Bulba, ce dernier ne lâcha plus sa main, la serrant dans la sienne, moite et chaude, si fort que les doigts d'Irène en devinrent insensibles. C'est ainsi qu'ils retraversèrent tous deux le grand salon, allant de groupe en groupe, et les invités s'écartant sur leur passage. Dans une des autres pièces de réception, on se rassemblait déjà pour organiser les danses nationales. Tout en marchant, Bulba parlait à voix basse, pressant un peu plus fort la main de sa compagne lorsqu'il voulait attirer son attention. « Dis-moi, mon petit pigeon, tes pauvres amis n'ont pas eu de chance. » Irène se sentit frissonner et serra les dents pour entendre la suite. « Ils ont essayé de s'échapper et ont été tués à bout portant par nos braves sentinelles. C'est dommage, car pour l'amour de toi, j'aurais fait grâce à tous, sauf au voleur qui a cassé la tête du camarade Alexandrov. Ouais, je l'aurais pardonné ce soir, parce que je suis heureux, sinon il serait mort à l'aube avec Sofia Kensky. Es-tu contente que j'ai renvoyé cette femme qui était mes yeux ? C'est par amour pour toi, mon petit pigeon. Tout par amour pour toi. » À certains moments, elle aurait crié. Par moments encore, elle se sentait prise de vertige. Voyait la chambre tournante autour d'elle et serait tombée sans le bras de son compagnon. Mais hélas, leur temps redouté arriva, et la compagnie, s'éparpillant avec de grossières plaisanteries à son adresse, elle resta seule avec Bulba. « Sont-ils tous partis ? » demanda-t-il avec impatience. « Il reste personne !» Et se rapprochant d'elle, « Montons, ma petite femme, là-haut, nous trouvons un petit souper préparé pour nous deux. » Sur le palier, Irène jeta un regard vers sa chambre d'autrefois, située au bout du long couloir. Son piano y était-il encore ? À gauche, c'était l'appartement de son père, composé de deux pièces luxueuses séparées par de lourds rideaux de soie, la chambre à coucher et le bureau. Ce fut dans le bureau que l'aveugle entra en tâtonnant et traînant toujours Irène derrière lui. La table du milieu était couverte de bouteilles et de verres et encombrée de coupes de fruits ou de sucreries autour de l'inévitable samovar. « Je vais fermer la porte à clé, » dit Bulba. « Maintenant, ma petite beauté, vous allez m'embrasser sur les yeux, sur la bouche et sur les joues en forme de croix. » Au lieu de répondre d'un violent effort, Irène s'arracha à son étreinte, mais d'un bond, il l'avait rattrapée et saisie à l'épaule par son corsage. Elle se débattit et lui échappa de nouveau, gardant la marque de ses ongles sur sa peau blanche. Alors il s'arrêta, un lambeau de soie dans la main, et se mit à rire d'un rire sourd, terrible. « Oh, Altesse » raya-t-il, « vous voulez voler sa jeune épouse à un homme aveugle, eh bien, soyons aveugles tous les deux !» Maladroitement, il alla jusqu'à la porte et, tournant le commutateur, plongea la pièce dans l'obscurité. « Je suis plus à mon aise que vous maintenant. Je vous entends, je peux presque vous voir. Tenez, vous êtes au coin de la table en ce moment. Vous poussez une chaise. Venez près de moi, mon petit pigeon. » Tant qu'il parlait, Irène pouvait se croire sauve, parce que le son de sa voix lui indiquait l'endroit où il se trouvait. Mais dès qu'il se taisait, elle se sentait envahie par une terreur folle. Lui avançait silencieusement comme un chat, et l'orgueilleuse prétention qu'il avait de voir dans la nuit semblait justifiée. Une fois, sa grosse main toucha le cou de la jeune fille qui sauta en arrière juste à temps pour l'éviter. Maintenant, Boulevard respirait d'une façon bruyante et son persiflage s'était changé en une fureur mal contenue. « Approchez, Irène Yaroslav, dit-il d'un ton brutal. « J'ai assez souvent obéi à vos ordres, n'est-ce pas ? Que de fois j'ai attendu la nuit entière pour vous voir descendre de voiture et vous servir votre café. Désormais, c'est vous qui m'attendrez. Vous serez mes yeux, mes mains, et quand je serai fatigué de vous, vous aurez le sort de Sofia Kensky. » Pendant qu'il parlait, Irène tâchait de se faufiler jusqu'à la porte pour redonner la lumière. Il y eut un long silence. Irène, arrêtée dans son élan, cherchait en vain à se rendre compte s'il avait changé de place. Hélas, Boulba avait prévu son mouvement et s'était blotti près de la porte, car à peine eut-elle tourné le bouton électrique qu'il bondit sur elle. Elle le vit, mais trop tard pour fuir. Déjà, il l'avait prise dans ses bras, à moitié fou, la bénissant et la maudissant tour à tour, la traitant de démon ou de petit pigeon, tout d'une haleine. Elle sentit l'affreuse barbe effleurer son épaule et se tordit de désespoir et d'horreur. Il marchait à reculons vers l'autre pièce, entraînant Irène, la portant presque. Ils atteignaient les rideaux lorsqu'elle poussa un cri de terreur. Mais ce n'était pas son propre danger qui avait arraché ce cri à Irène. C'était la vision, déjà entrevue une fois dans sa vie, de deux mains d'un blanc cadavérique sortant de la fente des rideaux. Elle tenait cette fois une mince corde écarlate qui entoura le cou de Boulevard en moins d'une seconde. Celui-ci, râlant, à demi étranglé, lâcha la jeune fille. Elle tomba à la renverse, culbutant la table avec fracas. « Par ici, Altesse !» appela une voix creuse derrière la portière. Irène s'élança et entendit derrière elle le bruit de la chute de Boulba. Israël Kensky déjà se précipitait vers la porte et poussait la grande duchesse dans le couloir en disant « Par l'escalier de service !» Chapitre 16. Le livre kabbalistique. Malcolm le premier entendit le roulement d'une voiture sur la route, et les quatre hommes écoutèrent en silence jusqu'à ce qu'un léger sifflement fit sursauter Pietrov qui s'élança hors de la pièce. « Qu'est-ce que cela peut être ?» demanda Malinkov. « On est venu jusqu'à la porte d'entrée. » Quelques minutes plus tard, Pietrov reparaissait, chancelant, sous le poids d'un frêle corps de jeune fille. Ce fut Malcolm qui l'en déchargea et déposa Irène sur le canapé. « Elle n'est pas morte !» dit une voix derrière lui. Il tourna la tête, c'était Israël Kensky. Le vieillard était blême et paraissait malade. D'une main tremblante, il prit le verre de vin que lui offrait Ivan, puis, tout en essuyant sa barbe, il se mit à considérer la jeune fille étendue devant lui. Il n'y avait dans ce regard ni affection ni pitié, mais l'expression tranquille de quelqu'un qui a atteint son but. « Et Boulba ?» interrogea anxieusement Pietrov. « Il est vivant, je le crains, » répondit Kensky. « J'ai serré la corde en la tordant avec un bâton, mais je suis vieux et faible, et lui bien robuste. S'il arrive à se dégager, il vivra. » « A-t-il su que c'était vous ?» Le juif secoua la tête, puis demanda, sans transition, « Quelle heure est-il ? » ?»« 2 heures. »« Sofia Kensky sera exécutée à 4 heures, » dit-il d'un ton si détaché que Malinkov le regarda bouche bée. Cet homme venait de risquer sa vie pour une personne de la caste qui avait persécuté les siens pendant des siècles, et il parlait sans ombre d'émotion de la mort de sa propre fille. « Il est juste qu'elle soit punie, » continua-t-il, « car elle avait trahi sa race et son père. C'est l'antique roi d'Israël, c'est une bonne loi. Maintenant, vais aller dormir. Croyez-vous qu'on vous poursuive ?» De nouveau, le juif caressa pensivement sa barbe. Quand nous avons passé la barrière, la sentinelle était éveillée. Ce seul danger à en douter. Il fit signe à Malcolm et, si peu disposé que fût le jeune homme à s'éloigner d'Irène qui semblait reprendre ses sens, il accompagna le vieillard hors de la chambre. « Hospodard, » dit Kensky, « je vous ai jadis confié un livre. » « Je m'en souviens, » et Malcolm sourit involontairement. « Le livre magique, » acheva le juif avec calme. « Il est dans ma chambre. Rendez-moi encore le service de le garder. Comme je n'ai ni enfant ni ami, je veux donner ce livre à la grande duchesse, qui a été très bonne pour moi. » « Mais voyons, Kensky, vous êtes trop intelligent pour croire aux livres de sorcellerie et d'incantation. » « Je crois aux livres magiques, » répliqua l'autre, toujours très calme. « Rappelez-vous qu'il doit appartenir après moi à la grande duchesse Irène. Je ne pense pas avoir longtemps à vivre. Que sera ma fin, je l'ignore, mais je la sens proche. Allons, venez avec moi chercher le livre. » Malcolm hésitait entre le désir de retourner auprès d'Irène et celui d'être agréable à l'homme qui venait de le sauver. Il grimpa l'escalier jusqu'à la chambre du juif. Celui-ci en ressortit bientôt, tenant le précieux livre cousu dans une enveloppe de toile. Malcolm le glissa dans sa poche, répétant le geste qu'il avait fait quelques années auparavant. « Maintenant, allons-nous-en, » dit Kensky. Mais, arrêtant Mr. Ray au moment où ce dernier posait le pied sur la première marche, « Milord, dit-il, vous aimez cette jeune fille ?»« Oui, Israël Kensky, » répondit très simplement Malcolm. « Vous êtes chrétiens, tous deux, et les différences de rang sont moins sensibles que celles des races. » Je crois que vous serez heureux, que le Dieu d'Abraham, de Jacob et de David vous accorde bonheur et prospérité. Amen. » Jamais bénédiction plus sincère n'avait été prononcée sur la tête de Malcolm et ne lui avait apporté un tel réconfort. Quand il rentra dans le salon et s'approcha d'Irène, elle se souleva à demi et, du geste spontané qu'elle avait eu dans la prison, lui tendit les deux mains. Cinq minutes plus tôt, il se serait contenté de serrer ses petits doigts dans les siens. Mais il n'hésita pas, et s'agenouillant auprès d'elle, il l'attira contre lui. Elle posa sa tête sur son épaule et lui passa ses bras autour du cou, en poussant un long soupir de bonheur. Alors il oublia le monde entier. Ce fut Pietrov qui interrompit cette petite scène. « Je viens d'envoyer pour vous des vivres dans les bois, » dit-il, « et l'homme est revenu en disant que votre chauffeur vous attend auprès de l'auto, ayant réquisitionné toutes les essences nécessaires. Oh, je crois que vous feriez bien de le rejoindre sans tarder. » Irène se ressaisit et, regardant d'un air désolé sa toilette pourpre, elle s'écria, « Je ne puis partir ainsi. » « Mais vous avez une malle ici, » dit Petrov. « Oh, c'est vrai, je l'avais oublié !» s'écria-t-elle joyeusement en sautant sur pied. « Hâtez-vous de partir, Altesse !» reprit Pietrov d'un ton pressant. « Je crois que vous ne soyez pas en sécurité dans ma maison, ni vous ni Kensky. Partez ! J'ai envoyé un de mes hommes à bicyclette pour surveiller la route de Moscou. »« Êtes-vous soupçonné ?» demanda Malinkov. Pietrov inclina la tête. Si le ministre de la Justice à Pietrograd n'était pas un de mes anciens ouvriers, il y a longtemps que je serais sous les verrous. car j'ai été au service du grand-duc autrefois. » Bulba, apprenant que Kensky a pris cette route, devinera qu'il s'est réfugié chez moi, et s'il vous y trouve, je suis perdu. Mon seul espoir est de vous savoir loin avant qu'on ne perquisitionne ici. Comprenez-moi, mon petit général. Je vous conseille la fuite parce que vous avez une auto. Sinon, je vous aurais gardé, malgré tous les risques. Je vous comprends parfaitement, mon ami, et je suis de votre avis. Qu'en pensez-vous, Israël ? Le vieillard, qui était entré dans la pièce à la suite de Malcolm, fit un signe approbateur, ajoutant pensif « Ben, j'aurais mieux fait de tuer Bulba d'un coup de revolver, mais c'était un moyen trop bruyant. » En hâte, ils firent leurs préparatifs de départ. La jeune fille redescendit, portant un charmant costume de voyage et ses magnifiques cheveux dissimulés sous un béret noir. « Vous avez un manteau, j'espère, » dit Malenkov, toujours pratique. « C'est bien, il peut vous être utile. » À peine avait-il achevé ces mots que de violents coups de crosse ébranlèrent la porte d'entrée. Et une voix cria de l'extérieur « Ouvrez, au nom de la Révolution !» Ivan resta pétrifié. Irène se rapprocha de Malcolm et Malenkov saisit doucement sa barbe. Seul Chérubim sembla envisager les nécessités de la situation et saisissant deux revolvers à la fois les posa sur la table devant lui. « Ouvrez au nom de la Révolution !» répéta la voix du dehors. Un signe de Kensky les rassembla. Il indiqua d'une main la lumière, de l'autre la sortie, puis saisissant Pietrov par l'épaule, lui souffla « Vous, mon ami, à votre chambre, mettez-vous en mise de nuit et gardez-leur, parlez-leur de la fenêtre. » Trois ou quatre se glissèrent dans le couloir et atteignirent la porte de service où Pietrov les avait reçus. Kensky en retira la chaîne et, se penchant à l'oreille de Malenkov, lui dit tout bas « Conduisez-moi, si vous vous souvenez de votre chemin. » Chérubin, revolvers au poing, fermait la marche. Il n'y avait pas de soldats en vue lorsqu'ils sortirent, mais un bruit de pas dans un chemin de traverse fit comprendre au général que la maison allait être cernée. Si l'homme avait frappé quelques minutes plus tard, toute fuite eût été impossible. Ils prirent la grande route et s'engagèrent dans le sentier conduisant à la forêt sans avoir rencontré personne. Le silence régnait toujours du côté de la maison. On ne s'était pas aperçu de leur départ. Kensky commençait à traîner la jambe. Au moment où ils allaient entrer sous les arbres, un cavalier sortit de l'ombre et mit son cheval en travers de la route. « Halte ! » cria-t-il. Ils s'arrêtèrent, sauf Bim, qui, se jetant dans le fourré, rampa pour couper la retraite à l'ennemi. « Qui êtes-vous ? » demanda ce dernier. « Parlez ou je fais feu ! » En disant cela, il armait sa carabine. « Ami, petit père, » dit Malenkov, « vos noms ?» Sans hésiter, le général déclina plusieurs noms russes très ordinaires. « Vous mentez, » répliqua l'homme froidement. « Vous êtes des bourgeois, je le reconnais à votre manière de parler. » Et sans plus d'explication, il tira. Un autre coup partit du fourré et suivit le premier de si près, que pour la deuxième fois en pareille circonstance, Irène crut avoir entendu qu'une seule détonation. Le soldat chancela, se glissa à terre. « Maintenant, droit devant nous !» cria Bim en saisissant la bride du cheval effrayé et le tirant sur le bord de la route. Les fugitifs se hâtèrent et rejoignirent l'auto dont le chauffeur avisé avait mis le moteur en marche en entendant les coups de feu. « Mais où est Kensky ?» demanda soudain Malcolm. « L'avez-vous vu, chérie ?»« Quoi, non ? Répondit Bim après un petit silence. Je ne l'ai pas revu depuis l'incident. Mais nous ne pouvons pas abandonner ce vieillard, pourtant. Attendez, dit le petit homme, je vais retourner le chercher. 5 minutes, 10 minutes passèrent. Bim ne revenait pas. Enfin, il y eut 3 détonations successives. 2 fusils, 1 revolver, dit Malenkov. Allez, montez dans la voiture, Altesse. Vous y êtes, le chauffeur ? De nouveaux coups de feu crépitèrent et ce fut une véritable fusillade. À ce moment, on entendit des pas précipités et le bruit d'une respiration haletante, et Chéri Bim apparut. « Débarrassez-moi de ce fardeau, s'il vous plaît !» Malenkov souleva le corps inanimé que Bim portait sur son épaule et le déposa dans la voiture lorsqu'une balle siffla à leurs oreilles. « Passe, ma vieille !» dit le gangster. Et il déchargea ses 2 revolvers dans la nuit, puis il sauta sur le marchepied avec une agilité surprenante, car l'auto démarrait déjà. Mais ses compagnons l'entendirent pousser un gémissement douloureux. « Vous êtes touché ?» s'exclama Mstubaï. « Oh là là !» chevrota Bim, à qui il était difficile de parler à cause des chaos de la voiture. La route était en pleine de trous. « Oh là là ! Oh, j'ai failli perdre mon chapeau ! Mais au fait, ajouta-t-il, je serais assez curieux de savoir ce qu'est devenu le cycliste envoyé par Pietrov. »